Radio Prague, les informations.
Bonjour, relance de soupçons de corruption en lien avec l'achat de véhicules blindés pour l'armée. La situation économique des petites et moyennes entreprises s'est améliorée et on a grande rétrospective Zdeněk Sikora à l'occasion de ses 90 ans. La police se penche à nouveau sur l'achat de véhicules blindés Pandour pour l'armée tchèque. Le quotidien Mladá Fronta Dnes a en effet révélé cette semaine d'autres éléments tendant à prouver que certains hommes politiques tchèques auraient accepté des pots de vin en échange d'un contrat avec la société autrichienne Steyr pour l'achat de 107 véhicules blindés Pandour d'une valeur de 14,4 millions de couronnes. Le Premier ministre Jan Fischer a fait savoir qu'il entendait que la lumière soit faite sur cette affaire. Les représentants des deux principaux partis politiques tchèques, le CSSD et l'ODS ont nié toute implication. Au cours des 6 derniers mois, le nombre de petites et moyennes entreprises en République tchèque qui estiment que leur situation économique s'est améliorée a augmenté. Cela dit, l'heure n'est pas à l'optimisme en ce qui concerne leurs attentes liées à l'évolution économique ultérieure. C'est ce que révèle une enquête effectuée sur plus de 450 petites et moyennes entreprises. Le pessimisme a eu tendance à monter dans le secteur de l'entreprise. Selon un sondage sorti ce vendredi, les sociodémocrates remporteraient confortablement les législatives face à l'ODS si le scrutin se déroulait ce mois-ci. Le CSSD obtiendrait ainsi 33% des voix devant l'ODS qui n'en obtiendrait que 20,5%. Sept partis en tout entreraient à la Chambre des députés contre 5 partis aux dernières élections de 2006. Les Verts et les chrétiens démocrates frôleraient de justesse la barre des 5%. Cette année, la piste cyclable internationale qui relie les villes de Ratisbonne et de Prague sera prolongée jusqu'à Munich. Elle mesurera au total 450 km, tandis que la précédente ne s'étendait que sur 290 km. Le projet a été présenté par le représentant de l'Union du tourisme et les maires des villes concernées à une conférence de presse à Munich qui accueille le Salon des loisirs. La description de tout le trajet menant de Prague à Munich sera publiée très prochainement sur le web. À noter qu'une autre importante piste cyclable internationale qui traverse la région de Plzeň va de Prague à Paris via Nuremberg. Avis aux amateurs de cyclisme. 15 ans après la première grande rétrospective de l'œuvre du peintre Zdeněk Sikora, la galerie de la ville de Prague organise une nouvelle grande exposition dans les locaux de la bibliothèque municipale. Zdeněk Sikora vient de fêter ses 90 ans et l'exposition qui a ouvert ses portes jeudi embrasse 50 ans de création de cet artiste de la ligne et des structures abstraites. L'exposition s'achèvera le 2 mai. Et à noter une autre exposition, la bibliothèque nationale l'ouvrira en mars et présentera les premiers ouvrages imprimés en pays tchèque. Le point fort de l'exposition, un ensemble de 7 incunables anciens, issus de la première imprimerie existant en Bohême. On finit par la météo. Ce vendredi, le temps reste couvert sur tout le pays, avec de la brume et des brouillards verglaçants. Il pleut en plaine, des chutes de neige peuvent apparaître en montagne. Les températures diurnes maximales se situent entre 0 et 4 degrés. Nous fêtons aujourd'hui les Patrick, selon le calendrier local. Fin des informations de Radio Prague, présentées par Anna Kubichta.
Faits et événements en République tchèque. Alena Gebertova.
Une nouvelle affaire de corruption risque d'éclabousser la scène politique tchèque. Pour l'instant, nous n'en sommes pourtant qu'à des spéculations. Nous vous expliquerons au début de ce programme de quoi il en retourne. Quelques mots ensuite sur les transports en commun à Prague, qui viennent de recevoir une très bonne appréciation au niveau international. Nous parlerons aussi de nouvelles mesures en rapport avec l'adoption d'enfants étrangers en Tchéquie, et nous terminerons comme tous les jours cette semaine sur une note sportive qui sera consacrée, bien sûr, aux prestations des sportifs tchèques aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. Selon les révélations du journal Mladá Fronta Dnes, plusieurs hommes politiques tchèques auraient été impliqués dans des transactions secrètes en vue de l'achat d'une centaine de véhicules blindés pour l'armée tchèque. Bien que tous les protagonistes nient fermement avoir pris part à ces pratiques douteuses, l'affaire éclabousse d'ores et déjà jusqu'au sommet de la politique tchèque. Vasa Frichter.
Selon un contrat signé en 2006, la société autrichienne Steyr doit livrer progressivement à l'armée tchèque un total de 107 véhicules blindés de transport de troupes Pandur pour 14,4 milliards de couronnes, quelque 554 millions d'euros. En janvier dernier, le reporter Yannick Kroupa du journal Mladá Fronta Dnes a recueilli les aveux confidentiels de deux ex-managers de Steyr. Selon cette source, les deux managers auraient offert à leurs interlocuteurs tchèques, lors des négociations sur ce contrat entre 2005 et 2006, une commission de 3% du montant de la commande. Et les deux ex-managers de désigner aussi plusieurs hommes politiques ayant participé à ces manipulations frauduleuses. Y auraient été impliqués entre autres l'ancien premier ministre et chef du Parti social-démocrate Stanislav Gross, l'ancien ministre de la Défense Karel Kühnel et le ministre actuel de la Défense Martin Bartak. Comme il fallait s'y attendre, tous les protagonistes tchèques de cette affaire rejettent fermement ces accusations. Même les anciens managers de Steyr ont récemment changé de ton et affirment maintenant que leur déclaration pour le reporter Yannick Kroupa n'a été qu'une plaisanterie. Le reporter refuse cependant de les croire.
Ils se sont retrouvés dans une situation très difficile, après avoir avoué un acte criminel. Il serait absurde qu'ils disent aujourd'hui autre chose. Il serait absurde que quelqu'un avoue avoir commis un acte criminel rien que pour plaisanter.
Face à ces accusations, le Parti social-démocrate prépare deux plaintes, l'une contre la calomnie, l'autre contre la corruption. Le premier ministre Jan Fischer, lui, exige une enquête pour élucider cette affaire. Quant à l'ancien directeur du service d'armement du ministère de la Défense, Jaroslav Steffetz, il est convaincu que les livraisons d'armes pour l'armée sont un terrain fertile pour la corruption.
J'en suis absolument sûr. On peut le prouver dans une grande mesure par des preuves indirectes et notamment par les procédés utilisés pour la conclusion de tels contrats qui sont confiés à des intermédiaires. Ce qui peut être considéré comme la preuve directe, c'est la différence entre les prix que l'armée tchèque paie et les sommes payées pour ce genre de transactions par d'autres armées.
Quoi qu'il en soit, il ne sera pas facile maintenant de dissiper les soupçons qui pèsent sur plusieurs personnalités politiques. Ce sera d'autant plus difficile dans la situation actuelle où les affaires de corruption dans le domaine public se multiplient, risquent de provoquer la colère des contribuables et de devenir un grand thème de la prochaine campagne électorale.
Prague s'est vu octroyer de bonnes notes par plusieurs institutions internationales. Selon la Fédération automobile internationale, Prague occuperait la quatrième position dans le top 10 des transports urbains en commun. Eurostat, l'Office européen des statistiques, révèle quant à lui que Prague est une des régions les plus riches au sein de l'Union européenne.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.
Le métro, le tramway et le bus, tels sont les moyens de transport en commun que l'on peut trouver à Prague. Selon les commissaires de la fédération en question, qui ont testé leur qualité et leur accessibilité, il n'y a que Munich, Helsinki et Vienne où le système de transport en commun est meilleur. C'est notamment la politique des prix, s'appuyant sur une variété de tickets disponibles et sur un système d'abonnement diversifié qui a été apprécié dans cette enquête. Le fait qu'il existe plusieurs possibilités de se procurer ces tickets constituait un autre atout. Outre l'achat classique, en kiosque ou dans des distributeurs, on peut le faire par Internet ou en envoyant un SMS. Un autre atout, fortement apprécié par les Pragois eux-mêmes et par les experts, est le dense réseau de transport qui dessert la capitale pendant toute la nuit, soit 13 lignes de bus et 9 lignes de tramway, tandis que le métro ferme à minuit et ouvre à 5 heures du matin. Un nombre insuffisant d'escaliers ou d'ascenseurs dans le métro, une liaison faible avec l'aéroport de Prague, Rusiné, assuré uniquement par le bus. Tels sont aux yeux de la Fédération, qui attestait au total 23 capitales, les aspects négatifs des transports en commun de Prague. La deuxième bonne note a été donnée à Prague par Eurostat, qui a fait une évaluation des différentes régions européennes sur la base du PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat. Londres se retrouve en tête de ce hit-parade, mais Prague occupe la position de la cinquième région la plus riche de l'Union européenne. Les adoptions internationales étaient au cœur d'une conférence de presse donnée ce jeudi par l'Office pour la protection juridique internationale des enfants, l'institution qui sert de médiateur dans les adoptions d'enfants à l'étranger. Yarka Gusublova.
Depuis le tremblement de terre, des dizaines de familles tchèques contactent le bureau siégeant à Brno, formulant la demande d'accueillir chez eux un enfant orphelin de Haïti. Le directeur de l'office, Zdeněk Kapitan, déconseille toutefois d'amener les petits Haïtiens lors des frontières du pays, car le rassemblement des familles séparées après la catastrophe n'est pas terminé.
Compte tenu de la situation en Haïti, on ne peut pas supposer que les autorités haïtiennes soient en mesure d'attester qu'aucun obstacle à l'adoption ne se pose et que l'enfant est un enfant seul, car les liens entre les familles et leurs proches n'ont pas encore été rétablis et il faut se concentrer sur la recherche des familles plutôt que sur l'adoption internationale.
Aucune famille en République tchèque n'a encore réussi à adopter légalement un enfant à l'étranger. Le plus grand nombre de demandes est dirigé logiquement vers les petits Haïtiens. Mais il y a des familles telles que celle de Nadejda Strakova qui a entamé une procédure d'adoption aux Philippines bien avant la catastrophe en Haïti.
En avril prochain, 2 ans se seront écoulés depuis le début de la procédure d'adoption en République tchèque. Ces derniers jours, nous avons reçu une lettre nous informant que les autorités des Philippines avaient approuvé notre démarche et nous avaient mis sur la liste de demandeurs. Le délai d'attente est de près de 2 ans. La procédure est donc relativement longue, ce qui pourrait décourager certains parents.
Pour ce qui est du cas concret de Haïti, l'avocat de l'Office pour la protection juridique internationale des enfants attire l'attention sur un autre risque. Haïti n'est pas signataire de la Convention de la Haye sur les adoptions d'enfants à l'étranger conclue en 1993. Pour cette raison, les autorités haïtiennes ne sont pas tenues de délivrer des informations sur l'état de santé de l'enfant et de ses parents biologiques et sur le fait que l'enfant n'est pas l'objet d'un trafic illégal d'enfants. Quant aux psychologues, ils déconseillent dans leur majorité l'adoption d'enfants haïtiens, ne serait-ce qu'en raison du risque de séparation de leur milieu naturel qui pourrait aggraver encore le traumatisme dont ils souffrent. Le directeur de la fondation People in Need, Shimon Panek, qui se trouve sur le terrain, souligne pour sa part qu'il arrive parfois que les petits haïtiens soient placés dans des orphelinats par leur propre famille, qui ne sont pas en mesure de s'occuper d'eux dans le chaos faisant suite au désastre. 5 semaines après le séisme, il faut laisser du temps aux familles sinistrées et se concentrer surtout sur l'aide humanitaire pour Haïti.
Depuis la médaille d'argent décrochée lundi par le fondeur Lukáš Bauer dans le 15 km style libre, plus aucun autre Tchèque n'est monté sur un podium des Jeux Olympiques de Vancouver. Pour autant, si le bilan reste pour l'heure bloqué à 2 médailles, dont l'or de Martina Sablikova en patinage de vitesse, certaines performances sont assurément dignes d'intérêt, à l'image de la 7e place de la skieuse Šárka Záhrobská dans le super combiné jeudi. Guillaume Narguet.
Avant un week-end qui sera marqué notamment par le 30 km poursuite en ski de fond chez les hommes, le ski cross masculin ou encore le 1500 m féminin en patinage de vitesse, autant d'épreuves dans lesquelles les Tchèques peuvent espérer remporter de nouvelles médailles, sans oublier le match de hockey sur glace contre la Russie, la journée de jeudi a donc été marquée par d'autres performances de choix dans le camp tchèque. La principale est à mettre au crédit de Šárka Záhrobská, 7e du super combiné remporté par l'allemande Maria Reich. 22e seulement à l'issue de la descente, la Tchèque a signé le meilleur temps du slalom. Šárka Záhrobská était donc forcément satisfaite à l'issue de la course.
C'est une sensation très agréable. C'est un slalom qui me convenait très bien. La piste et le parcours m'ont beaucoup plu. Pour ce qui est de la descente, je n'ai pas trop de regrets parce que je ne pense pas pouvoir faire beaucoup mieux dans cette discipline, surtout que son profil était très difficile ici. Maintenant, il reste encore pas mal de temps pour bien m'entraîner avant le slalom spécial. Il sera couru sur la piste à côté, celle de la descente masculine, mais je me sens bien et j'espère que je me sentirai aussi bien le jour du slalom.
Un slalom qui sera disputé samedi prochain et dont Sharka Zarobska, sacrée championne du monde en 2008, sera donc une des favorites. Je dis toujours en patinage de vitesse, cette fois Karolina Erbanova s'est classée 12e de l'épreuve du 1000 mètres. La jeune tchèque a terminé à 93 centièmes de seconde du vainqueur, la canadienne Christine Nesbitt, et à seulement un dixième de la 10e place. Surtout à seulement 17 ans, Karolina Erbanova a été plus rapide dans sa série que l'allemande Jenny Wolf, médaillée d'argent quelques jours plus tôt sur 500 mètres.
J'ai pris le départ en ayant un peu de respect, en me disant que je courais avec Jenny Wolf. Je savais cependant que j'avais mes chances, car beaucoup de spécialistes du 500 mètres ont du mal à boucler le deuxième tour d'anneau sur 1000 mètres. J'étais donc relativement confiante et j'ai bien gagné la série.
Et pour sa prochaine course dimanche, Karolina Erbanova prendra le départ du 1500 mètres aux côtés de sa partenaire d'entraînement, la désormais célèbre Martina Sablikova. Et puis la journée de jeudi à Vancouver était surtout marquée par le programme libre en patinage artistique chez les hommes. Déception pour Tomáš Werner, seulement 19e, passé à côté notamment de son programme court. Le Tchèque, champion d'Europe en 2008, est donc resté très loin de son objectif de podium. Satisfaction en revanche pour Michal Bžezina, finalement 10e. À 19 ans, le vice-champion du monde junior, 4e également des derniers championnats d'Europe senior, a démontré qu'il était une promesse pour l'avenir.
Et c'est tout. Dans ces faits événements, notre programme se poursuit par son volet économique.
Économie, commerce.
Un colloque franco-tchèque a été organisé cette semaine sur le thème des énergies renouvelables en République tchèque. Olivier Bertrand, chef du département bioénergie du syndicat des énergies renouvelables en France, revient sur la nature de ce type d'énergie, leurs avantages et les enjeux économiques qu'elle représente en France et en Tchéquie. Des propos recueillis par Anne-Claire Veluire.
Contrairement aux énergies fossiles, qui sont des énergies qui fonctionnent sur des stocks, à savoir on va puiser dans le sous-sol pour aller pomper du pétrole, du gaz naturel, on va exploiter des mines pour trouver de l'uranium. Hein, l'uranium c'est qui sert pour les centrales nucléaires, c'est pas renouvelable, hein, c'est une matière géologique. Contrairement à ces énergies fossiles, les énergies renouvelables sont, on pourrait dire, des énergies de flux, c'est-à-dire le vent, le soleil, l'eau, ce qu'on appelle la biomasse, à savoir les végétaux, donc aussi bien les végétaux agricoles que forestiers. Ce qu'on met sous le vocable énergie renouvelable, ce sont des sources d'énergie ou des matières premières ou des flux qui se régénèrent et dans lesquels on ne puise pas et qui un beau jour se révèle épuisé. Donc voilà, c'est ça la manière dont on peut définir les énergies renouvelables.
Est-ce qu'une énergie renouvelable est forcément une énergie propre ?
Le grand intérêt des énergies renouvelables, c'est que ce sont des énergies qui n'émettent pas de gaz carbonique. Le gaz carbonique étant un des principaux gaz à effet de serre. Pourquoi ? Tout simplement parce que le vent et le soleil ne produisent pas de CO2 en tant que tel. Et puis pour ce qui est de ce qu'on appelle la biomasse ou le bois au sens large, certes, on va le brûler soit dans une cheminée, soit dans une chaudière, et donc on va émettre du CO2, mais ce CO2 est en fait réabsorbé par les plantes pour leur propre croissance. C'est-à-dire que lorsque vous brûlez 4-5 bûches de bois, le CO2 qui est émis est recapté par la parcelle forestière que vous avez exploité pour justement utiliser ce bois de chauffage et qui a besoin, via la photosynthèse, du CO2 pour leur propre croissance. Donc c'est un cycle neutre vis-à-vis de l'effet de serre. Ensuite, l'intérêt des énergies renouvelables, il peut être multiple. Ce sont le plus souvent des énergies locales et qui peuvent être utilisées localement. Ça se comprend assez facilement avec l'exemple du bois. Ça peut se comprendre aussi très facilement avec, par exemple, l'énergie photovoltaïque, à savoir produire de l'électricité avec du solaire et des panneaux solaires. Ce qui est important de retenir, c'est que elles permettent d'utiliser des ressources locales, donc des ressources forestières, agricoles, et d'optimiser ou d'utiliser au mieux soit la présence du vent, soit la présence du soleil, selon les zones géographiques concernées.
Aujourd'hui, on est ici à Prague, dans le cadre d'un colloque franco-tchèque sur les énergies renouvelables en République tchèque. Vous êtes venu présenter ce matin l'expérience française dans le secteur des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelle est cette expérience française ?
L'idée de ce colloque, c'était de faire un partage d'expérience. Chaque pays a ses propres spécificités, comme je vous le disais, en matière de climat et en termes de profil énergétique. Donc on a en France un panel d'énergies renouvelables, des industries qui se sont développées autour de ces énergies renouvelables et qui proposent aujourd'hui des solutions techniques qui peuvent être intéressantes. Un des intérêts des énergies renouvelables aussi, c'est qu'elles sont pas ou peu délocalisables. La plupart des producteurs d'énergie renouvelable sont bien ancrés dans leur pays. Et puis, essayent d'exporter aussi les progrès qu'ils ont réussi à faire technologiquement parlant. Donc aujourd'hui, on se retrouve à Prague, avec des partenaires publics, avec des acteurs locaux, privés, qui souhaitent, eux, développer les énergies renouvelables dans leur propre pays. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent en République tchèque, mais peut-être qu'on peut trouver aussi des solutions chez l'un ou chez l'autre. Vous le savez peut-être, l'Europe a décidé de développer de manière importante les énergies renouvelables à l'horizon 2020 et chaque pays a des objectifs à respecter. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes présents pour échanger des expériences et puis, si possible, nouer des partenariats économiques qui permettront à la fois aux filières françaises et puis aux filières et aux acteurs tchèques d'aller dans la même voie d'un développement de ces énergies.
J'ai vu, je ne sais pas si mes chiffres sont bons ou actuels, mais que la France utilise actuellement 10% d'énergie renouvelable sur l'ensemble de l'énergie produite et consommée. La République tchèque à peu près 6%, ce qui est nettement moins, et en même temps la France, il y a très peu de temps, en était encore à 6% d'énergie. Est-ce que vous pouvez faire un petit tableau comparatif de la production et de la consommation de ces énergies renouvelables entre la République tchèque et la France?
Malheureusement, j'ai pas tous les chiffres en tête pour vous faire un comparatif précis, mais juste pour vous donner un chiffre, déjà franco-français, aujourd'hui on est un peu plus de 10%, on est en gros à 12% d'énergie renouvelable dans notre consommation énergétique totale, et l'objectif c'est de passer à 23% en 2020. Effectivement, on a un pourcentage qui aujourd'hui est un peu plus important que la République tchèque. Ceci étant, la République tchèque a des objectifs ambitieux et rattrape, mais en tout cas se développe à son rythme. Au niveau français, on doit doubler en gros d'ici 2020 notre consommation d'énergie renouvelable. Je crois qu'au niveau tchèque, ça doit être l'équivalent. Donc tout le monde doit se retrousser les manches. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque filière a sa place. Il n'y a pas de concurrence à avoir entre les énergies renouvelables elles-mêmes. Le marché est suffisamment grand et les perspectives de développement suffisamment importantes pour que tout le monde arrive à se positionner et qu'au final, on réponde aux objectifs européens.
Quelles sont les énergies qui sont les plus utilisées en France et ici aussi en République tchèque, peut-être en écoutant les discussions que vous avez eues ce matin?
En France, en volume d'énergie renouvelable consommée, les principales filières sont ce qu'on appelle la biomasse, donc le bois et puis toutes les, on va dire, les matières végétales qui sont utilisées pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Ensuite, il y a l'hydroélectricité, donc la production d'électricité à partir de barrages. Et puis, vient en troisième position les biocarburants, le monde des déchets. Et puis ensuite, toutes les filières qui sont au niveau technologique très performantes, à savoir l'éolien que vous citiez, le photovoltaïque notamment, mais aussi d'autres filières comme la géothermie ou les pompes à chaleur, ce type de système. Au niveau tchèque, d'après les échos et les discours qu'on a pu entendre lors de cette journée, de cette matinée notamment, L'accent est mis sur notamment la biomasse, donc la production de chaleur et d'électricité à partir du bois essentiellement. Et puis le photovoltaïque qui prend beaucoup d'importance et qui visiblement a besoin d'être un peu mieux encadré ici en République tchèque parce que finalement victime de son succès, le coût général de la politique de soutien au photovoltaïque s'avère très important. Donc voilà, les représentants ici des pouvoirs publics tchèques nous ont fait comprendre de manière claire qu'il y aurait sans doute une révision du tarif d'achat de l'électricité produite à partir du photovoltaïque, donc une révision à la baisse justement pour essayer de mieux contrôler la facture pour les finances publiques de ce type de politique.
Est-ce que les entreprises tchèques que vous avez rencontrées ici proposent des technologies intéressantes pour les industriels français?
Je ne peux pas vous donner une réponse précise, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a à apprendre des uns des autres, qu'il y a des entreprises très performantes en République tchèque, que ça soit d'ailleurs sur la filière photovoltaïque dont je parlais à l'instant, que ça soit aussi sur le chauffage au bois domestique, donc la fabrication de poêles à bois, d'inserts, de chaudières bois. Voilà, il y a une expérience tchèque qui est reconnue d'ailleurs au niveau européen, et je crois que les confrères allemands et autrichiens le savent bien. Les professionnels français d'ailleurs qui sont ici ne viennent pas en conquérant et et avec un quelconque esprit colonisateur ou quoi que ce soit. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent en République tchèque. Simplement, il y a des perspectives de marché. Ça intéresse les pouvoirs publics tchèques que des acteurs industriels étrangers et notamment français soient intéressés par investir en République tchèque et à créer de l'emploi. Donc l'idée, c'est que voilà, ça soit bénéfique.
Le programme en français de Radio Prague est ainsi terminé. Je vous souhaite de passer un très beau week-end.
En su receptor, Radio Praga. Emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Radio Praga pone su primera emisión para España a las 9 horas UTC, tiempo universal coordinado, por las frecuencias de 11.600 kHz. A las 15 horas UTC, transmitimos para España por los 11.600 kHz. A las 19 horas UTC, los oyentes españoles nos pueden sintonizar por los 6.200 kHz. Radio Praga transmite a las 20 horas UTC para España por los 5.930 y a las 21.30 UTC para España y Sudamérica por los 5.930 kHz. A las 0 horas UTC salimos al aire por los 5.930 y los 7.420 kHz, esta última frecuencia a través de la repetidora en la isla Ascensión. A las 01.30 horas UTC, los radioescuchas de Centroamérica nos pueden sintonizar por los 7.345 kHz.